Même par rapport à ce que tu veux, qui tu veux pas, avec la demande des visas, parce que l'argent, le remboursement dont ils parlent, ça veut dire les gens à qui on a rejeté leur visa. Parce que tu peux faire la demande, on t'accepte ou bien on te rejette. Mais la majeure partie des gens, c'est des rejets. La raison pour laquelle même les jeunes n'ont plus le courage d'aller dans les ambassades pour demander de la difficulté du filtre qu'ils font. Et puis s'ils t'ont rejeté, l'argent que tu avais déposé, c'est des sommes globales. Je ne peux pas, j'ai pas encore les informations exactes de montants qu'il dépose comme caution, mais c'est des montants globaux qu'il dépose. Mais si on te rejette le visa, cet argent, on te rembourse, tu vas le perdre. Tu ne seras pas remboursé, même pas la moitié ou le tiers. Tu as perdu, on t'a rejeté, c'est un rejet. Ce que tu avais déposé, c'est perdu.
Diese Frage des Geldes ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil Leute, die illegal auswandern, die meisten hatten, wie gesagt, einen Antrag gemacht, der meistens abgelehnt wurde. Und das hat viel Geld gekostet. Und das ist Geld, das, obwohl der Antrag abgelehnt wurde, nie zurückkommt und das jetzt verloren ist.
Oui.
Oui, Ousmane, il y a un autre paramètre, c'est nos ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique a toutes les ressources halieutiques, le poisson, minières, le gaz, le pétrole, le fer, le zircon, etc., etc. Et toutes ces mines-là, malgré la richesse, on assiste à l'immigration, et surtout à l'immigration clandestine. Donc, il faut que l'Afrique commence à voir pourquoi, le pourquoi. Maintenant et après le pourquoi, il faut que l'Afrique aille vers le comment régler ce problème, le comment initier des politiques pour essayer de retenir les jeunes. Parce que il y a vraiment, comment on appelle ça, il y a eu des morts
C'est tout.
qu'on ne peut pas identifier encore en pleine mer. On ne peut pas le savoir. Combien l'Afrique a perdu dans ses mers, dans ses eaux, pour ces jeunes
Qui
qui étaient dans
tentait
des pirogues,
d'immigrer.
qui tentaient l'immigration clandestine. C'est ça où il y a des problèmes avec ces drames-là.
Und ein anderer Parameter ist auch unsere Ressourcen. In Afrika gibt es eine sehr große Reichtum an Bodenschätze, an Fisch, also, und die Bodenschätze sind jetzt Gas, Öl, aber auch Edelsteine, Edelmetalle. Und trotz dessen gibt es sehr viel Auswanderung und viel illegale Auswanderung. Und vor allem von jungen Menschen. Und die erste Frage ist, warum? Aber die zweite und die wichtigste ist, wie kann man das lösen? Weil diese Auswanderungen sind oft sehr tödlich. Es gibt unzählige Tote. Man weiß gar nicht, wie viele Tote es gibt, die mehr gestorben sind auf der Reise von Afrika nach Europa.
Ok, merci. Tu demandes les solutions. Je vais te dire encore les solutions. Déjà, c'est ce que tu as évoqué. C'est seulement ça. La formation professionnelle. Les cours sur cycle. Essayer de faire la formation professionnelle. Là, l'Europe devait collaborer avec les États africains à créer des centres de formation professionnelle pour les jeunes qui restent dans leur pays et servir là-bas. Et qu'il y aura des coopérations dignes de ce nom. Parce que là, tu parles même des problèmes de la mer. Les problèmes ne se résident pas seulement là-bas. Même ici, ceux qui sont arrivés maintenant, l'Europe ne veut plus des migrants. Raison pour eux, ils subissent maintenant ici des pressions, de beaucoup de pressions. Raison pour laquelle beaucoup de jeunes, et parfois ils sont malades ou bien ils sont avec le désespoir qu'ils ont de leur voyage, la majeure partie sont devenus aussi fous. Ils n'ont plus leur raison.
Für mich sind die Lösungen, was wir schon vorher erwähnt haben, also eine adaptiertere professionelle Ausbildung und mehr Ressourcen, die investiert werden, um mehr Orte für adaptierte Ausbildungen in Afrika zu kreieren und mehr Kooperation zwischen Europa und Afrika, weil Europa wird immer härter, was Immigration angeht. Und das verursacht sehr viele Tote und auch sehr viel Leiden. Ich kenne Leute, die irre geworden sind dadurch.
Peut-être on va faire une pause musicale et revenir. Ou bien tu as quelque chose à dire, Moustapha, encore?
Thank you. السلام عليكم.
بوش باش.
بريد معكم فاطمة بنت أغرب. Приходь до нас в Риаку, Common Voices.
Common
Voices.
Common Voices.
Ok, chers auditeurs de la radio, quoi, peut-être je vais voler le mot de Fallou là, mon voisin là, qui parle le plus souvent la musique et la langue des émotions. Mais c'est assez vrai aussi. À travers cette musique, Youssou N'Dour a résumé l'actualité dont nous parlons aujourd'hui sur l'immigration.
Hallo, willkommen zurück, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Fallou ist heute nicht da, aber oft sagt er, dass Musik die Sprache der Emotionen ist. Und ich glaube, das ist wahr, wenn ich diese Musik von Youssou N'Dour höre.
Youssou N'Dour, le chanteur sénégalais, bah, à travers cette chanson, il nous parlait même de l'immigration. Quand tu voyages là où tu pars, c'est pas ton pays. Pensez aussi à demain, à revenir dans ton pays d'origine.
In diesem Lied redet Youssou N'Dour auch von Immigration und sagt, dass wenn du dich gerade nicht in deinem Land befindest, denk daran, zurückzukommen.
Et pratiquement, comme on l'a dit, même il donnait des conseils aux jeunes aussi à rester, à travailler dans leur pays, malgré que tu veux partir pour l'immigration.
Und er gibt auch Tipps zu jungen Menschen, die Arbeit suchen in ihrem Land und gehen wollen. Und er gibt diese Situation.
Donc, en grosso modo, peut-être, on va revenir encore sur notre thème, Moustapha. Peut-être, on a parlé de l'immigration. Mais ce qu'on essaie de voir encore aussi, comme les gens, ils veulent partir, l'immigration, c'est quitter son pays pour aller dans un autre pays qu'on appelle le pays d'accueil, comme Moustapha l'avait donné au début de son émission, parce qu'on parle de l'immigration, immigration. Donc, l'immigration dans le terme, on va se référer du pays d'accueil, là où on vient. Est-ce qu'il peut y avoir une productivité pour ce pays? L'immigration peut-il avoir des aspects positifs? Malgré qu'aujourd'hui, on voit que l'Union européenne, certains États, disent qu'il ne vaut plus des immigrés, les gens qui viennent dans leur pays. Mais essayons de voir, est-ce que cette immigration-là peut rapporter quelque chose au pays d'où vont les gens?
Oui, Ousmane. Oui, je suis là, Leïla.
Peut-être Leïla, elle n'est pas...
Ouais. Excusez-moi, j'ai eu des problèmes de connexion, apparemment. Je suis de retour, donc.
Ouais.
Ma question, du coup, ce serait quels peuvent être les aspects positifs pour... Ousmane, tu disais pour les pays d'accueil ou les pays... pour quel pays les pays?
Les pays d'accueil. Positifs. L'immigration peut-il avoir un aspect positif par rapport au pays d'accueil? Là où les gens, ils partent en quittant son pays, aller dans un autre pays. Actuellement, on voit que l'Europe, certains pays d'Europe ne veulent plus accueillir les gens, d'après ce qu'il dit. Mais est-ce que l'immigration, cette immigration-là, va peut-il apporter quelque chose à ces pays?
Also, die Frage wäre, was sind die positiven Aspekte für die Länder, die, die in denen ausgewandert wird, also die, die, zu denen die Leute auswandern?
Voilà, ich meine, donc, l'immigration pour les pays d'accueil, moi, je me dis qu'il y a un effet positif, hein, donc l'effet positif. Parce que si nous voyons aujourd'hui l'Europe dans sa globalité, c'est une population qui a vieilli. Il n'y a pas assez de jeunes face à l'Afrique, face à d'autres contrées du monde, surtout face à l'Afrique. Donc, il y a un problème de la démographie et de la régénération des populations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population occidentale, elle a vieilli. Donc, l'immigration peut aider avec des mariages mixtes, peut aider avec d'autres systèmes qui aideraient la démographie au pays d'accueil à se régénérer, à se refaire par rapport à la vieillesse. Ça, c'est un. Donc, le capital humain va se faire revoir à la hausse. Il y a aussi la main-d'œuvre. Parce que, quoi qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé parce qu'il n'y a plus de main-d'œuvre. La main-d'œuvre est absorbée par un peu ce qu'on appelle. Les partenariats machines. Avec la Chine. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui cette immigration peut aider à avoir une belle main-d'œuvre, une bonne main-d'œuvre qui pourrait quand même aider aux entreprises d'ouvrir à nouveau et de faire une productivité. Mais aussi, il y a la qualification ces immigrants-là. C'est-à-dire que ils vont aider les entreprises, mais aussi ils vont se faire former. Ils vont se faire former et il vient avoir un plan de carrière. C'est-à-dire qu'on peut entrer dans une entreprise en ayant juste des bases quelconques, mais on peut arriver jusqu'à avoir l'ingénierie dans ces entreprises-là.
Es gab leider technische Störungen, also habe ich den Anfang weniger gehört, aber das Wichtigste ist, das wichtigste positive Aspekt für die Länder wäre eine sehr qualifizierte Arbeitskraft und es gibt ja auch dieses Unternehmensplan, dass man in eine Firma kommt und dann immer einen höheren Posten.
Si nous prenons encore les bienfaits de l'immigration pour les pays d'accueil, on peut le prendre dans le sport, par exemple. Le sport est un moyen d'immigration qui ouvre ses portes à toutes les nationalités. Et ça ne fait pas beaucoup de bruit. Et ça rapporte beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous avons vu, par exemple, pour l'Afrique, les entraîneurs des pays, des équipes nationales, qui ont fait les beaux jours de l'Europe et qui sont revenus en Afrique, entraîner le pays en équipe nationale et qui gagnent des matchs jusqu'à aller encore à la Coupe du Monde ou d'autres disciplines. Donc, voyez-vous, on peut. Donc, l'immigration dans les pays d'accueil est bénéfique en général. Mais ces pays d'accueil-là disent qu'ils n'ont pas besoin pour le moment. Mmh. Mais moi, je dis tout le contraire et on va ouvrir un peu ce chapitre.
Ich würde ja sagen, dass es auf jeden Fall viele positive Aspekte gibt für das Aufnahmeland. Man kann zum Beispiel auch von dem Sport reden. Das ist ja eine Disziplin, die alle Nationen zusammenbringt oder alle Länder und die auch sehr viel Geld generiert. Und in der es auch Situationen gibt, wo Sportler zum Beispiel in einem Land praktizieren oder ausgebildet sind und ihn dann für ein anderes Land spielen und dann gewinnen zum Beispiel. Und das ist dann auch ein sehr positiver Aspekt.
Parce que Moustapha parle là, même je prends l'exemple ici, là où je suis en Allemagne. Parce que vous aussi, on voit l'état d'Allemagne, il cherche à répartir beaucoup de gens. On ne peut pas voir la justification, quelle est la raison. Ce qui est paradoxal par rapport à ça, il y a un grand manque de main-d'œuvre. Les entreprises, ils demandent toujours des travailleurs. Mais en contrepartie, l'État fédéral allemand, eux ici, il répartit aussi d'autres personnes. Alors qu'ici, il y a la demande de main-d'œuvre. Et aussi, il y a certaines villes, ils sont développés actuellement à travers de l'immigration. Parce que quand tu émigres là où tu es, là-bas, tu vis là-bas. En vivant là-bas, à chaque achat, tu as payé aussi des impôts, tu contribues au développement de cet État. Mais aussi, je vais embrasser l'aspect culturel. Il y a le brassage de la culture, l'échange culturel. Quand on vient ici dans un pays, on vient avec sa culture. Peut-être on peut apprendre d'autres cultures, mais aussi on apprend la culture que tu as à d'autres personnes.
Ich würde dazu noch verschiedene positive Aspekte sagen. Also ich sehe erstmal hier in Deutschland dieses Paradox von der hohen Nachfrage nach Arbeitskräften. Es gibt wenig Arbeitskräfte und dass trotzdem sehr viele, dass ein Großteil der Immigration blockiert wird. Noch dazu, wenn man in ein Land auswandert, zahlt man ja Steuern in dem Aufnahmeland, man konsumiert hier, man bringt dem Staat Geld und natürlich die kulturelle Durchmischung, die dadurch passiert, also den Austausch zwischen den Menschen, die eine andere Kultur haben.
Et aussi parce qu'aujourd'hui on voit que le monde est un monde planétaire. Personne ne peut plus refuser l'immigration avec la technologie. Les gens sont obligés de se cohabiter. Actuellement, et par là, je dirais que l'immigration va nous faciliter la lutte contre le racisme. Parce que quelqu'un qui se dit qu'il n'aime pas les étrangers, alors qu'aujourd'hui, il est forcé de vivre avec ces étrangers-là, je dirais que là, c'est un aspect positif aussi de l'immigration.
Und es ist schon so, dass die Welt heute sehr, sehr durchmischt ist, dass Mondialisation real ist und komplett aktuell. Und das Gegenteil wär eine Lüge und das kommt auch von Technologie. Aber es gibt sehr viel Austausch und Durchmischung auf der Erde. Und das ist auch etwas sehr Positives, dass auch in dem Kampf gegen Rassismus oder Xenophobie helfen kann.
Oui, Ousmane, tu as touché un point où ça c'est un point sur le racisme, sur la xénophobie, ainsi de suite. Mais tu sais, c'est partout dans le monde où on trouvera ça. Si. Maintenant, le migrant, l'émigré lui-même, il doit avoir un comportement. Mm-hmm. Et essayer le maximum possible de s'intégrer, de travailler son intégration par rapport au pays d'accueil. C'est toujours difficile de voir quelqu'un venir chez toi, se faire héberger, mais aussi travailler des travaux que toi, tu ne voulais pas faire, ou bien tes enfants ne voulaient pas faire et qu'ils veulent faire aujourd'hui. Ça, c'est difficile. Donc maintenant, c'est l'immigré lui-même qui s'adapte, c'est tout. Qui se fait comprendre, qui se dit, je dois aider ce peuple-là, je dois aider les personnes qui y vivent en leur montrant qui je suis et qu'est-ce que je suis venu chercher.
Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und Rassismus und Xenophobie sind heutzutage aktuell und es ist, es gibt das überall. Was aber auch noch wichtig ist, ist das Verhalten des Auswanderers, dass er versucht, sich zu integrieren und versucht, sich und seine Kultur den Menschen von einem Aufnahmeland zu zeigen und dass er versucht, sich zu integrieren.
Pourquoi je dis l'intégration est importante pour l'immigré. Parce que si ce que tu gagnes là-bas en formation, ce que tu gagnes à la sueur de ton front pour ta poche, va au moins payer des impôts là-bas, mais aussi à aider les personnes que tu as laissées ici pour tes enfants vont aller à l'école. Ils vont se faire soigner quand ils seront malades. Je te donne juste en 2023, le chiffre donné par la Banque mondiale sur le montant que les Sénégalais avaient envoyé. Imagine-toi, c'était près de 2,9 milliards de dollars. 2,9 milliards de dollars. Presque 3 milliards de dollars envoyés en 2023 par les émigrés sénégalais. Imagine-toi sur les plus de 50 pays en Afrique, ce que ça fait comme masse financière.
Ja, Integration ist auf jeden Fall wichtig und da gibt es auch eine finanzielle Komponente, also was du verdienst als Auswanderer im Aufnahmeland. Das gibst du aus in Steuern, aber auch in Hilfe, dass du zum Teil zu deiner Familie schickst in deinem Herkunftsland. Und da komme ich wieder mit einer Zahl. In 2023 waren es 2,9 Milliarden Dollar, die senegalesische Auswanderer nach Senegal geschickt haben. Das ist...
Oui, Moustapha, parce que par rapport à l'intégration, là même, j'insiste sur ça. Parce que nous aussi, on a tort d'un côté, les émigrés. Les émigrés. Parfois, on vient dans un pays, qu'est-ce qu'on parle? On dit que je suis là pour travailler. Non, c'est pas ça. Le migré aussi doit participer dans son pays d'accueil. Il est dans le pays, mais il ne connaît plus quand est-ce qu'il va revenir. Est-ce qu'il ne va pas rester éternellement? Nous qui émigrons, quand on rentre dans notre pays d'origine, le plus souvent, on nous demande maintenant, quand est-ce que tu vas rentrer? Ça veut dire que notre pays même ne nous considère plus comme quelqu'un qui va rester encore. Donc, ça veut dire que si tu es dans un pays déjà, essayer de participer au développement de ce pays et s'intégrer encore, comme Moustapha l'avait dit.
Und das ist auch wichtig, weil je länger man ausgewandert ist, desto mehr verändert sich die eigene Beziehung zu dem Herkunftsland, zu seinem Herkunftsland, weil wenn man dort zurückkommt, wird immer gefragt, naja, wann kommst du zurück? Und es hat diese Tension zwischen, dass man nicht genau weiß, wie lange man bleibt und dass es manchmal sehr lange wird, aber dass trotzdem diese Idee ist, dass man vielleicht mal bald zurückkommt. Also ist Integration sehr wichtig.
Donc peut-être Moustapha, tu vas laisser, on va faire une petite pause musicale encore et revenir encore parce que quand on parle des aspects positifs, donc il y a aussi parfaitement des aspects négatifs. Quels sont les aspects négatifs? Quels dangers peut présenter aussi l'immigration par rapport au pays d'accueil? Donc, sans plus tarder, on va écouter une musique d'une chanteuse sénégalaise qui s'appelle Aïda Sambo. Écoute-nous.
Sama takani no khol shirik
Chers auditeurs de la radio Kora, donc ça c'était la chanson de Aïda Femme aussi. C'est une chanteuse sénégalaise. Comme on a l'habitude, le Sénégal, il y a les chanteurs comme Youssou, mais aussi il y a des femmes très talentueuses qui chantent très bien, comme celle de Aïda Femme. Il
y a des auditeurs qui sont sur Common Voices. Und wir haben gerade ein Lied von Aïda Femme, eine sénégalaisische Sängerin, gehört.
Donc, on va revenir sur notre thème, chers auditeurs, qui parle de l'immigration. On a beaucoup débattu sur ce problème. Maintenant, on voulait parler un peu des dangers, Moustapha, des dangers de l'immigration. Parce que tantôt, tu avais évoqué, même sur les fonds que rapportent les immigrés sénégalais, mais aussi les fonds aussi, quand on l'amène, c'est avantage pour notre pays, mais aussi c'est parfois désavantage pour le pays d'accueil.
Wir werden jetzt von den Gefahren oder den negativen Aspekten von Immigration reden.
Oui, Ousmane, c'est vrai qu'en face des avantages, en face des aspects positifs, il y a des aspects qui sont un peu négatifs pour le pays d'accueil. C'est-à-dire que par exemple, l'immigration aujourd'hui telle que il y a par exemple au moment où il y avait la COVID, hein, donc le pays d'accueil connaissait aussi c'est la quarantaine par rapport aux étrangers et ainsi de suite, vraiment. Donc il y a l'exploitation humaine, c'est-à-dire que la personne est sous-employée, n'est pas payée avec un bon salaire ou bien travaille dans la clandestinité. L'impôt, la fiscalité ne peut pas voir cette personne qui arrive dans le monde du travail.
Moustapha, cette situation de quarantaine, là vous parlez de
la COVID, par exemple.
Le moment de la COVID. Pays d'accueil, voilà. Et les personnes qui ont immigré, qui du coup ne pouvaient plus aller travailler à cause de la quarantaine.
Voilà, pouvaient ne plus aller travailler, voilà, donc c'était un problème.
Oui, maintenant peut-être on va parler un peu sur l'organisation parce que le temps il ne reste pas beaucoup de temps. Mais je voulais qu'on parle aussi sur les départs parce qu'on voit qu'il y a des gens qui viennent. Ils font leur demande d'asile, mais leur asile n'est pas accepté. Donc ils sont obligés de partir. Même l'État fédéral leur demande de sortir le territoire. Mais en cette demande, soit il y a deux conditions. Soit tu pars volontairement ou bien ils vont te forcer à partir. Maintenant, on veut essayer de voir aussi sur le concept de départ volontaire, en quoi consiste.
Wir werden jetzt in Bezug zu Asylanträgen die Frage von freiwilliger und unfreiwilliger Reise und Auswanderung.
Parce que ici, quand on parle de départ volontaire, selon l'État allemand, c'est-à-dire les gens qui veulent quitter d'abord, qui veulent partir dans leur pays. Ils sont venus maintenant, déjà, ils veulent retourner, mais peut-être ils n'ont pas des moyens de retour. Là, l'État fédéral peut les soutenir à partir dans le pays de départ, dans le pays d'origine. Il y a d'autres aussi, ils ont fait l'asile, mais l'asile est rejeté. Mais comment ils vont faire? Peut-être ils vont avoir une collaboration avec l'État fédéral et accepter à partir sous certaines conditions. Aussi, c'est dans des formes allégées que l'État fédéral va les accompagner, à les amener encore dans le pays d'origine.
Und es gibt auch die Frage des Rückkehrs. Da gibt es, wie gesagt, freiwillige Rückkehr, also natürlich unfreiwilliger, also Abschiebung, aber auch freiwillige Rückkehr ins Heimatland. Und dafür gibt es auch staatliche Hilfe, die möglich ist, weil manchmal gibt es Situationen, wo man den Rückkehr will, aber die finanziellen Mittel dafür nicht hat.
Oui, mais sur ce point, Moustapha, parce que je pensais que même, parce que la façon dont ils font le départ, c'est pas motivant pour les gens, parce qu'il y a certains, ils n'ont plus le coup, ils veulent rentrer vraiment, mais c'est les moyens qu'ils posent, parce que quand ils venaient, ils avaient un objectif, mais déjà, dès leur arrivée, ils voient que c'est la déception totale, ils veulent retourner, mais il y a la pression sociale qui est derrière eux. Il y a aussi des problèmes. Peut-être il avait fait des dettes pour venir. Ou bien il a un projet, mais il sait que quand il rentre dans les mêmes conditions, son projet ne sera pas réalisé. Mais pour les départs volontaires, on voit que le montant qu'on alloue aux gens, c'est très misérable parfois. Je ne dis pas que c'est petit, mais c'est pour quelqu'un qui pensait avoir un projet, 300 euros, 600 euros. Ça ne peut pas le motiver à partir.
Aber in diesen Situationen von freiwilligem Rückkehr, das kommt aber auch mit einem Scheitern der Vorstellungen, der Projekte, auch mit einem sozialen Druck im Heimatland und diese staatliche Hilfe, die ist miserabel, die ist sehr niedrig. Das sind 300 bis vielleicht 500, 600 Euro. Und das ist ja nichts, wenn man denkt an die Projekte, die nicht gemacht werden konnten, die die Person machen.
Oui, peut-être Moustapha, tu n'es pas comme ici la situation dont on vit, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont ici, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas aller à l'école, parce que c'est la loi qui les bloque. Et une fois que leur demande d'asile est rejetée, ils reçoivent un titre de séjour, mais ce titre de séjour ne leur permet pas de travailler. Alors que moi, je disais, est-ce que laisser ces personnes travailler sous une condition, ils peuvent signer, dire que moi je peux travailler jusqu'à 5 ans, jusqu'à 10 ans, là je vais rentrer. Même que, quitte à ce que c'est l'État qui va bloquer son argent, après dès qu'il rentre, il va pour qu'il ait un financement, ou bien on peut dire qu'il va faire un autofinancement.
Weil es gibt viele Leute, die blockiert sind. Sie können weder in die Schule sich ausbilden oder arbeiten, weil nach dem Asylantrag, der abgelehnt wurde, bekommen sie eine Aufenthaltsgenehmigung, die ihnen aber nicht erlaubt zu arbeiten. Und da denke ich mir, es müsste doch, man könnte vielleicht eine bestimmte Zeit ausmachen oder dafür eine Lösung finden.
Le retour, surtout l'organisation des départs volontaires, ne doit pas uniquement s'organiser avec l'émigré. Je pense que les deux États doivent organiser, se parler et organiser le retour de l'émigré. Parce que sinon, ça va être très difficile pour l'émigré. Parce qu'il y a les causes sociales qui l'attendent encore, les problèmes sociaux, donc qui l'attendent, et qu'il y a aussi la honte de n'avoir pas réussi.
C'est tout, ouais.
La honte de n'avoir pas réussi fait que les gens restent encore là-bas ou se déplacent d'un autre pays. Ils font 5 ans en Allemagne, ils ne réussissent pas et ils n'ont pas le papier pour travailler.
C'est tout, ouais.
faire 4 ans, ils ne vont pas travailler. Après, ils vont en Suisse. Donc, ils vont faire le tour de l'Europe et ils ne vont pas faire profiter. Ils ne vont pas profiter de ces pays. Et le pays d'origine où il vient ne va pas profiter de son enfant.
Ich glaube auf jeden Fall, dass es eine bessere Organisation braucht von diesen Rückkehren. Und das nicht nur mit, das nicht nur von der Person, die auswandert, sondern es braucht viel mehr Dialog zwischen den beiden Ländern. Weil wenn eine Person rückkehrt, gibt es ja diese sozialen Probleme, die es immer noch gibt, aber auch diese Scham von diesem Scheitern, es nicht geschafft zu haben nach dem Auswandern, nach dieser Reise. Und diese Menschen bleiben manchmal länger, reisen dann in andere europäische Länder und versuchen Arbeit zu finden. Und das kann zu schwierigen Situationen führen. Also ich glaube, es braucht eine gute Organisation, eine bessere.
Si, ouais, parce que tu parles d'organisation, je vais venir sur toi, parce que ce que tu fais, c'est un problème d'intégration, nous on a ça. Quand tu rentres comme ça, avec les mains vides, tu auras un problème d'intégration familiale. Mais Moustapha, ma question est de savoir, tu es journaliste, tu es le plus souvent sur le terrain, mais tu connais pas mal de gens qui avaient fait le retour volontaire. Mais qu'en est-il de leur situation actuellement au pays? Ces personnes-là qui avaient fait le retour volontaire, soit qui ont une formation qu'ils n'en ont pas, quelle est la situation?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Problem der Integration, wenn nach diesem Rückkehr auch mit der Familie, mit dieser Idee von dem Scheitern. Aber meine Frage an dich ist, wie ist gerade diese Situation von Menschen, die eine freiwillige Rückkehr gemacht haben?
Oui, c'est souvent difficile pour ces personnes de faire un retour, parce que le retour est volontaire et il est libre. Donc, maintenant, pourquoi c'est difficile? C'est parce que les deux États n'encadrent pas le retour de l'immigré. C'est pourquoi c'est difficile. Et ça, c'est l'avenir. Mais il y a des gens qui ont fait le retour et ils sont allés chercher un champ pour cultiver. Ils sont allés chercher des voitures pour faire le transport. Ils sont allés chercher des sociétés pour faire le nettoiement, ainsi de suite. Mais la plupart du temps, ils sont confrontés d'abord à des problèmes d'ouverture de société. Ouais. Pour ouvrir une société au Sénégal, c'est un peu facile maintenant, mais c'était difficile à l'époque. Ah ouais. Parce qu'il fallait faire beaucoup de papiers et ouvrir la société. Et quand tu ouvres la société, il faut l'argent. Le capital que tu as ne te permet pas, toi, d'abord de te donner un salaire et de donner un salaire à un autre. De chercher du matériel pour travailler, d'entretenir le matériel et de payer, et surtout c'est ça, de payer les impôts, la fiscalité et les taxes. C'est pourquoi je vais revenir tout à l'heure sur ça en deux.
Ja, es ist oft schwierig, diese freiwillige Rückkehr ist oft schwierig, weil es gibt keine Begleitung und keine Betreuung davon. Und es gibt diese Problematik der Öffnung der Gesellschaft. Wenn man zum Beispiel Senegal nimmt, da ist die Gesellschaft und die Prozesse sind sehr bürokratisch. Und diese Öffnung, die braucht auch Geld für Material, für
Danke. Ce à quoi aujourd'hui le pays de départ volontaire doit parler avec le pays d'arrivée, c'est l'organisation. Ouais. Parce que souvent, ce qu'on voit, les gens qu'on voit ici, moi j'en connais sur le terrain, il y en a qui sont repartis encore en France ou en Italie, ils étaient revenus avec toute leur famille, avec des projets. Mais ils ne pouvaient pas se faire un salaire pendant un an. Pendant un an, ils ne pouvaient pas se faire des salaires. Donc, ils sont retournés. Il y en a aussi retournés encore en Europe. Il y a encore des gens qui ont des enfants, des petits-enfants, en Afrique, et l'éducation, la formation n'est pas la même. Ils vont retourner parce qu'il faut que les enfants retrouvent ce qu'ils connaissaient déjà. Il y a aussi des enfants en situation de handicap. soit c'est des autistes, soit c'est des handicapés moteurs ou soit. Donc, ils ne sont pas pris en charge en Afrique. Et en Europe, ils sont pris en charge. Donc, c'est des difficultés comme ça que vivent l'émigré. Et ça, c'est les deux États qui peuvent l'organiser. Sinon, il n'y a pas de solution pour l'émigré seul. Et pour les retours.
Für mich ist wirklich die Lösung das Dialog zwischen den beiden Ländern. Es gibt viele Situationen, in denen das essentiell ist. Es gibt viele, die ausgewandert sind, zurückgekommen sind und dann wieder ausgewandert sind nach Europa wegen der wirtschaftlichen Situation. Sie hatten keinen Lohn finden. Manche hatten Kinder, die gewöhnt waren, die Ausbildung in dem früheren, also in dem Aufnahmeland. Und sie konnten sich dann nicht mehr gewöhnen, also gab es wieder eine Auswanderung oder in der Situation von Behinderung, Behinderungsstatus, das in Europa besser betreut wird und man muss dann doch zurück.
Si. Parce que maintenant, moi, suggestion que j'ai par rapport à ça, Moustapha, est-ce que cette départ volontaire-là ne devait pas être organisé? Parce que tu as dit, les États qui devaient prendre en charge en ça, ne pas laisser l'immigré seulement. Parce que si je prends l'exemple, l'immigré, il part. Il fait presque 10 ans, 15 ans dans un autre pays. S'il vient dans son pays, beaucoup de réalités, il va l'ignorer. Il ne saura pas les réalités qui existent dans ce pays. Donc là même, est-ce que en faisant des départs volontaires, est-ce qu'il ne serait pas plus prudentieux d'organiser ça en groupe, de les créer sous forme de ONG ou GIE que les immigrés doivent rentrer?
Mein Vorschlag für diese Organisation wäre dann eine Kreation von einer NGO oder einer Organisation, die dafür verantwortlich ist, eine.
Oui, Ousmane, il faut une organisation pour les deux États. Et les organiser, c'est, par exemple, faire des sociétés, faire des groupements d'intérêts économiques sur tous les corps de métier. Par exemple, celui qui veut faire l'agriculture, l'agriculteur, il est là. Il y a celui qui va faire la transformation. Il y a celui qui va faire la logistique, le transport. Il y a celui qui va faire la transformation pour des boîtes manufacturées, c'est-à-dire les confitures, ainsi de suite. Donc, on peut les organiser et il y a celui qui fera le marketing, celui qui va gérer la comptabilité, la gestion, la société. Ouais. Et il y a tout ça dans la diaspora avec les immigrés.
Ouais. Sous le contrôle de l'État.
Sous le contrôle de l'État. Ouais. Et je pense que la bonne idée, c'est là où je vais terminer. La bonne idée qui a été faite il n'y a pas longtemps en Italie par le premier ministre Ousmane Sonko, c'est d'appeler les Africains à investir dans le capital de l'État, c'est-à-dire ce qu'il appelle le diaspora bond, c'est-à-dire mettre son argent, tant que tu es actif là-bas, tu places ton argent dans le circuit économique de ton pays. Et là, quand tu vas revenir, déjà tu es identifié, tu as prêté de l'argent à l'État, il va faire des bénéfices, et ces bénéfices, et l'État t'a identifié. Et maintenant, si vous vous regroupez, vous dites à l'État, faites-moi des exonérations d'impôts, des exonérations fiscales, je veux acheter une voiture, mais cette voiture doit être en Nortax et en Nordouane, mais... Voilà un peu
une idée
que les deux États peuvent faire. C'est des idées comme ça que l'État, que les deux États doivent se faire. Moi, ce que j'ai là où je vais terminer, c'est que pour tout émigré, dans la vie, comme disait quelqu'un, quand on ne peut pas être un pont, c'est-à-dire être une passerelle, un chemin où les gens peuvent passer, il faut pas, pour relier les deux pays, il faut pas être le mur, c'est-à-dire qu'il faut pas barrer.
Il ne faut pas barrer.
Pour la traduction, mais merci à Ousmane et merci à Radio Corax. À bientôt, la semaine prochaine, à l'E et à l'Allemagne.
Also, ich glaube, dass die Lösung wirtschaftliche Gemeinschaften sind von verschiedenen Sektoren, wo man sich die Tätigkeiten aufteilen kann. Ein Beispiel, das ich gut finde, ist in Italien. wie Kapitalinvestitionen in dem Aufnahmeland oder in Italien gefördert wurden. Das wurde Diaspora Bank genannt. Und dadurch, wenn Leute dann zurückkehren und investiert hatten, werden sie erkannt. Und das funktioniert noch mehr, wie gesagt, als wirtschaftliche Gemeinschaft, als Gruppierung. Und mein Fazit wäre dieser eine Satz, wenn man keine Brücke zwischen zwei Ländern sein kann, dann soll man keine Wand sein. Also soll man gefälligst nicht eine Wand zwischen den beiden sein. Vielen Dank an alle, an Ousmane und an Corax.
Donc, pour simple tarder, je vais dire que pour ça, c'est possible, pour l'organisation et le financement des retours volontaires. Parce que seulement pour les déportations, l'Union européenne dépense une colossale d'argent. Pour une seule personne, il peut dépenser environ 20 000 euros parce qu'il prend en charge les frais de justice, les frais de transport, frais d'accompagnement.
En cas de retour?
Ouais.
Ou en cas de...
Pour les déportations.
In dem Fall einer Abschiebung ist das auch eine große Ausgabequelle für das Land. Es kann bis zu 20.000 Euro kommen, um eine Person abzuschieben und einen unfreiwilligen Rückkehr zu organisieren.
Ja, donc au lieu de favoriser les déportations, vaut mieux voir encore comment faire pour organiser les déportations, les retours volontaires.
Also anstatt Abschiebungen zu fördern, ist es essentiell, freiwillige Rückkehr eher besser zu organisieren und mehr Dialog zwischen den Staaten zu kreieren.
Donc merci chers auditeurs de la Radio Corax. Donc l'émission tire à sa fin. Leïla, merci. Moustapha, merci. Donc à la prochaine fois, toujours comme on a l'habitude de le dire, quand c'est important, c'est avec la...
Salam alaikum.
Dem si bitim rew gara luma lume bailanga avion luma si foi sa mapaka mbanga idukuga edu sa foi sa baka basai sohak mo yarna doktore Jarul faydiza ndax ayna khate ngati jarale ko siyo yoneta ngati yomi bagatte hem demal si dem fam ware yomi bagatte kharal badem manam jarul faydiza ndax ayna khate ngati mona demay ta khate demal ta dem fam ware dem ci piti blaw jaralu nalune bay lang avio como si foi sama pactan mane tukugal como si foi sama pactan Sai sou rakmo jarna to